Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Et on dira bien sûr dans cette émission un mot du plan stratégique de Carrefour qui a été dévoilé hier par Alexandre Bompard, plan d'ici à 2026. Gaëlle Mac, bonjour.
Bonjour.
Directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Alors à l'une du Challenge de demain, car nous sommes mercredi.
Spécial États-Unis, donc l'Amérique divisée. Ben, on va avoir le résultat des midterms.
On attend les résultats. En tout cas, ce n'est pas la vague républicaine, visiblement, que l'on pouvait redouter encore dans les commentaires il y a quelques heures. Et je vous rappelle la une du numéro encore disponible en kiosque aujourd'hui. C'est un spécial immobilier intitulé « Le début d'une baisse », notamment avec les nouvelles mesures du ministre du Logement. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Quand Michel-Édouard Leclerc nous dit « Nous allons vers un tsunami d'inflation, elle va s'installer à deux chiffres en 2023 ». Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'observateur et économiste ?
Des inquiétudes, hein, d'une part, en tant que citoyen aussi, mais je pense que Michel-Édouard Leclerc regarde aussi son, enfin, on va dire sous le prisme de la distribution et des prix à la consommation alimentaire qui sont effectivement aujourd'hui élevés. Hein. On voit que cet indice des prix à la consommation est déjà supérieur, l'inflation sur l'alimentaire déjà supérieure à 10%, on est à 17% sur les produits frais. Effectivement, on est dans un mécanisme aujourd'hui dans lequel, avec une hausse des prix de l'énergie ou des prix de l'énergie qui restent durablement élevés, ça va être difficile d'atterrir rapidement à une inflation, on va dire, comme on a connu auparavant. Donc, on a quelque chose qui s'installe un peu dans le temps, avec des débuts de second tour, hein, c'est assez logique, hein, c'est-à-dire que quand on a une inflation à ces niveaux-là, les salariés vont pas accepter d'encaisser complètement les pertes de pouvoir d'achat, donc il faut s'attendre à des hausses aussi par ailleurs de salaire, et puis on peut s'attendre aussi progressivement, on va voir, et ça c'est un enjeu fort, et d'ailleurs je pense que c'est un enjeu au sein des différents pays, y compris dans la concurrence et la compétition internationale, c'est les dispositifs budgétaires et d'accompagnement. Vous parliez de ce qu'on peut faire ou pas pour les ETI. On voit que l'Allemagne met 200 milliards. On voit ce que font les États-Unis aujourd'hui face à l'inflation. Donc assez clairement, c'est aussi la sortie des dispositifs d'aide ou pas. En tout cas, pour 2023, on a déjà des choses établies. Mais après, c'est 2024 où la question va être, à mon avis, essentielle. Donc je crois que Michel-Édouard Leclerc averti, il a relativement raison d'alerter là-dessus. Ça dépendra de beaucoup de choses, notamment de ces effets de second tour, des effets de salaire qu'on peut avoir, et puis bien sûr des évolutions géopolitiques et notamment la question de l'énergie, et bien sûr les accompagnements budgétaires, tout ça dans un contexte de remontée des taux. Donc c'est quelque chose de extrêmement délicat et beaucoup beaucoup d'incertitudes.
En tout cas, lui, il dit clairement que l'inflation est installée, elle n'est pas provisoire, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas s'envoler. Même s'il faut admettre qu'on a quand même des signaux d'apaisement sur le transport maritime, oui. On a des signaux d'apaisement sur certaines matières premières aujourd'hui. Oui. Il y a quand même et puis même à la limite sur le mégawattheure produit au gaz, qui a quand même considérablement baissé par rapport au sommet qu'on a connu à 340 ou 350 euros au mois d'août dernier. Mais
je pense qu'il faut faire Gaëlle attention Mac, des deux côtés, hein, parce que d'un côté, le gouvernement a déjà été pris en flagrant délit de suroptimisme sur l'inflation.
Tout le monde,
voilà, il pensait en gros que ça allait plus ou moins s'arrêter déjà au second semestre, là, au second semestre. 2022.
Quand Jean Castex avait sorti le bouclier tarifaire, il devait arrêter en juillet parce que
il n'y avait pas la guerre en Ukraine.
Il n'y avait pas la guerre en Ukraine.
Voilà. Mais de l'autre côté, il faut quand même voir aussi que Michel-Édouard Leclerc, qui est un très bon lobbyiste, il plaide aussi un peu pour sa paroisse. On est dans le contexte de la loi Egalim, c'est-à-dire de négociations avec les industriels. Lui, il se plaint de cette loi en disant que elle lie un peu les mains des distributeurs qu'ils ne peuvent pas écraser comme ils veulent les fournisseurs. distributeurs. Lui, il promeut beaucoup de marques de distributeurs, donc il a des négociations avec des PME agricoles, etc. Donc lui aussi, c'est quand même aussi un plaidoyer pro-domo en partie. Oui. Hein.
C'est vrai. D'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle le patron d'Intermarché, mais il a indiqué que dans les négociations qui sont des foires d'empoigne tous les ans, mais là, cette année, c'est franchement...
Ça va être méchant. Sanglant.
Et lui, il met en cause les industriels, hein, les grandes marques qui, visiblement, ont des attentes de hausse de prix qu'il a qualifiées d'inacceptables ou de scandaleuses.
Oui, d'ailleurs. C'est également ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Ouais, mais on est un peu dans le jeu, là.
Il y a l'idée de faire un peu de pression au moment où ces négociations...
C'est une façon de dire qu'il n'est pas non plus responsable de l'inflation et que lui aimerait pouvoir avoir les mêmes... plus libre pour lutter contre
cette
inflation.
C'est une sorte de pression.
Enfin, sans de mettre pression sur les producteurs.
Voilà.
Mais juste peut-être pour cette question d'inflation et le côté peut-être plus structurel de l'inflation, il y a bien sûr ces effets de second tour, même si on n'a pas des mécanismes d'indexation comme dans les années 70. Hein, donc je ne pense pas qu'on est dans la spirale inflationniste des années 70, mais quand même, on aura une partie qui va être autonome de cette inflation, parce que voilà, une fois de plus, les salaires ne peuvent pas encaisser pleinement.
Oui, non, mais c'est une vérité, cette inflation, et elle va être importante.
Et le deuxième point, c'est le coût de la transition énergétique, quand même. Hein. Je pense qu'il y a quand même cet effet-là, c'est-à-dire que forcément, on a des objectifs avec la stratégie nationale bas carbone, hein, de venir à la neutralité carbone en 2050. C'est des investissements très lourds. Ça nécessite de décarboner, on en parlera, l'industrie. Ça nécessite éventuellement de taxer plus qui pollue le plus. C'est aussi peut-être les taxes carbone aux frontières. Tout ça va de toute façon vers une augmentation des coûts de production et de l'inflation et des prix. La mondialisation avait pesé de toute façon sur, en tout cas la baisse, même vers... plutôt vers la déflation que sur l'inflation. Aujourd'hui, on revient sur un scénario qui est beaucoup plus inflationniste à moyen terme.
Mais d'ailleurs, plus personne n'ose vraiment parler de croissance verte, de transition heureuse vers un monde plus... tout ce qui est circuit court,
c'est nécessaire,
bio,
mais ça sera douloureux.
Voilà, ce sera le vert, c'est cher. Dieu sait si on l'a exprimé ici. D'ailleurs, c'est la phrase de Christian Gaulier que j'ai trouvé assez bien sentie. Il est le directeur de l'école d'économie de Toulouse. C'est l'un des plus grands spécialistes de cette transition écologique et des éléments, notamment de fiscalité du carbone, qui doivent accompagner cette transition. Il réagissait à ces gens qui ont organisé une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Il dit là, c'est un peu antagoniste. Hein. Si on veut une vie pas chère, eh bien, il faut bien voir que l'action climatique, si elle existe à ce moment-là, elle a un coût, et un coût très élevé. Avant justement d'évoquer ce qui s'est passé autour de l'industrie, j'aimerais avoir votre lecture de la dynamique du marché de l'emploi. Hier, on a des chiffres de l'APEC incroyables, des niveaux d'embauche de cadres absolument somptueux, avec des perspectives également tout à fait réjouissantes pour l'emploi des cadres. On a eu là les créations nettes au troisième trimestre de l'INSEE, on est à 89 400 créations nettes d'emploi. Ça devient presque une énigme d'économiste. Dans le monde dans lequel on vit, avec tous les signaux noirs qui s'accumulent sur les perspectives 2023, on a des créations d'emplois qui ne faiblissent pas.
Oui, alors c'est vraiment une énigme. Hein, vous l'avez
c'est
bien.
Vraiment une énigme.
C'est vraiment une énigme. Et cette énigme, on va dire, elle s'amplifie de trimestre en trimestre. C'est-à-dire que, effectivement, si vous prenez les modèles macroéconomique, on fait des prévisions, on utilise des cycles de productivité, on prend un certain nombre d'éléments, on a clairement une déconnexion entre les évolutions d'activité et les créations d'emplois. Ce qu'on n'a jamais observé comme ça par le passé. On peut avoir ça transitoirement, mais là, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et si vous regardez les chiffres, ils sont quand même assez intéressants, assez parlants. Depuis la fin 2019, donc pré-Covid, hein, juste avant la crise Covid, jusqu'à aujourd'hui, donc on a presque 3 ans maintenant, on a créé en net plus de 850 000 emplois, ce qui est assez fabuleux. Ça veut dire que c'est une hausse de l'emploi... Depuis fin 2019.
Oui, donc en fait, c'était une période courte, c'est sûr.
Une période assez courte, sachant que le premier semestre, on a détruit à peu près 500 000 emplois, donc on a créé plus d'un million d'emplois en 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait 5% d'emplois en plus. Ce qui est important, hein, 5% d'emplois en plus dans l'économie. Mais ce qui est intéressant, c'est de le regarder face à l'activité réalisée. Et si vous regardez la valeur ajoutée qui a été créée sur le même espace, dans le secteur privé, c'est 1%. Donc on a augmenté l'activité de 1%, globalement, et l'emploi a augmenté de 5%. Donc la déduction, elle est simple, c'est que vous avez des pertes de productivité qui sont massives. Or,
en fait, quand on crée beaucoup d'emplois, le côté mauvais signe, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de gain de productivité.
Ou alors, il y a beaucoup de croissance.
Ou alors, il y a beaucoup.
Le problème, c'est que là, vous n'avez plus de croissance, mais vous avez quand même des créations d'emplois. Il faut voir que, historiquement, Ce qui fait que les salaires augmentent, que les niveaux de vie augmentent, c'est les gains de productivité à long terme. C'est des gains en France autour de 1%. C'est-à-dire que normalement, on augmente de 1%. Là, on n'a pas augmenté de 1% par an, on a perdu 4% sur 2 ans et demi. Donc se pose cette question-là, c'est très bien pour le marché du travail, parce que finalement, on a un marché du travail très dynamique et c'est plutôt favorable. C'est surprenant de la part des entreprises, parce qu'on voit que le contexte macroéconomique n'est pas très porteur. Elles continuent à investir et à créer des emplois, ce qui n'est pas du tout la vision aujourd'hui des ménages, qui sont très pessimistes sur l'avenir. Finalement, ça veut dire que les entreprises ne sont pas si pessimistes sur l'avenir. Par contre, ça pose la question de cette productivité et donc de la rentabilité même des entreprises et de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer la même chose, on a besoin de plus d'emplois, ce qui est même qui va à l'encontre des évolutions historiques. Et donc, il y a deux choses. C'est soit les entreprises vont chercher à récupérer ces gains de productivité parce que elles vont être face à des problèmes de rentabilité et que cette rentabilité est artificiellement entretenue par des aides, etc. Et donc là, ça ne va pas être très positif pour l'emploi. Soit on a un choc structurel sur l'économie et on a des pertes de productivité. Ça pose un problème à long terme sur la croissance potentielle, donc sur le financement du modèle social, etc. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais si on regarde un peu tout ça, on scrute un peu tout ça, il y a quand même malheureusement le revers de la médaille qui est moins beau.
C'est le côté un peu cynique de l'économie quand on la regarde dans sa complexité. C'est qu'annoncer qu'on a des créations nettes d'emplois tout à fait exceptionnelles par rapport à ce qu'on pourrait, ce qu'on serait en droit d'imaginer, c'est quelquefois pour de mauvaises raisons. Et en l'occurrence, effectivement, c'est cette fameuse histoire d'absence de gains de productivité qui, on peut le dire honnêtement, Mathieu, est aussi une énigme d'économiste aujourd'hui. Personne ne sait vraiment expliquer pourquoi les Américains sont en panne de productivité à ce point-là. On se disait que la transition numérique allait être quelque chose d'absolument phénoménal. Finalement, la réalité, c'est pas celle-là.
Et là, on est au-delà. C'est-à-dire qu'on avait effectivement le fameux débat sur la stagnation séculaire, les ralentissements de gains de productivité, une forme de japonisation de l'économie. Mais là, on n'est plus sur le ralentissement des gains de productivité, on est sur une baisse de la productivité, ce qui est quand même très nouveau. C'est-à-dire que les ralentissements de gains de productivité, on les observe depuis, on va dire, le tournant des années 2000, assez clairement. Mais là, on a un choc sur le niveau de productivité, c'est encore autre chose, ça va un cran plus loin. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal dans le monde actuel.
C'est quand même un sujet, la notion de gain de productivité, qui n'est jamais évoquée dans le débat d'opinion au sens général sur l'ensemble des médias. C'est une notion en fait qui échappe à la compréhension de l'économie pour beaucoup de gens, alors qu'elle est absolument centrale. Gaël Mac.
Mais sur le plan du quotidien. Cette histoire de baisse de productivité, elle n'est pas forcément non plus mauvaise pour les employés. Elle vient en partie du fait qu'il y avait quand même des pénuries dans certains emplois qui étaient très mal rémunérés, avec des horaires décalés, je pense à l'hôtellerie-restauration, etc. notamment. Bon, ben, on entend dans ces entreprises-là que finalement, elles se sont décidées à embaucher des gens en plus parce que pour pallier ces problèmes, pour avoir un peu plus de main-d'œuvre, de sorte à ce que la main-d'œuvre qui y est soit un peu moins pressurisée. Bon. Et il faut aussi considérer que les entreprises étaient quand même parvenues à un certain pic de marge. Elles avaient vraiment d'assez bonnes marges, notamment parce qu'elles ont été très aidées pendant le Covid et également parce que sur la durée, je pense que Mathieu Plaine l'avait calculé, quand même la baisse de pression fiscale, elle a plutôt concerné les entreprises ces dernières années. Donc bon, s'il y a une petite baisse de marge, c'est pas non plus encore très préoccupant. À condition que cette baisse de productivité soit un peu mondiale et que ça se passe plutôt dans les services que dans l'industrie qui est peut-être très concurrencée.
Mais ça tendrait aussi à confirmer que ce virage de la politique de l'offre qui a commencé sous François Hollande était un choix vertueux, puisqu'effectivement, enfin, on constate, même si on ne peut pas cibler chaque euro libéré par la fiscalité du capital, par exemple, pour savoir s'il a permis de l'investissement, de la création d'emplois, il y a quand même des résultats positifs en matière de tissu productif en France depuis qu'on a pris 2-3 bonnes décisions de politique de l'offre.
La politique de l'offre, elle est censée augmenter la productivité à long terme, pas la baisser.
Ah, mais je suis d'accord. Mais
moi, normalement, c'est favoriser l'innovation, la rentabilité, etc.
Bien sûr.
Là, on a le phénomène inverse. Moi, je pense que, alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer aussi cette baisse de productivité. C'est qu'on a un choc très particulier avec des chocs sectoriels. D'ailleurs, on voit que, par exemple, on a beaucoup de créations d'emplois dans des secteurs qui ont été extrêmement frappés par la crise. Le BTP, la restauration, même les activités liées aux loisirs, au spectacle. On peut penser qu'elles ont été quand même, c'est des secteurs qui ont été beaucoup aidés pendant la crise. et que du coup, effectivement, il y a eu des embauches qui sont créées qui n'auraient pas eu forcément lieu sinon. Il y a bien sûr l'apprentissage aussi. Hein,
c'est un élément important. Oui.
Vous allez créer des emplois qui ont un coût qui est quasiment nul.
Donc forcément, la première année avec les subventions publiques.
Donc ça joue. Après, il y a d'autres effets qui sont un peu difficiles à prendre en compte, mais on peut imaginer que dans certains secteurs, il y a une partie du travail qui était non déclarée, qui est plus déclarée aujourd'hui. Notamment par exemple dans la restauration, pour bénéficier de certains dispositifs. Il y a l'histoire des travailleurs détachés. Donc on voit qu'on a moins de travailleurs détachés. Donc c'est vrai que si vous voulez être dans le BTP, vous voulez continuer à avoir de l'activité, bah, vous allez embaucher ce qu'on appelle les travailleurs domestiques, c'est-à-dire ceux qui résident dans le pays. Donc tout ça peut jouer sur les niveaux de productivité, mais c'est pas suffisant pour comprendre juste ce qui se passe. Donc ça va vraiment un cran au-delà. Et j'allais dire, tant mieux. Tant mieux pour le moment, hein, cette résistance du marché du travail, elle est quand même plutôt intéressante et c'est quand même, on revient à un niveau de chômage qui est relativement bas par rapport à ce qu'on a connu. La question, c'est comment tout ça va évoluer pour être investi à venir. Et donc, c'est vrai, quand on fait de la prévision, la question, c'est est-ce qu'on continue à créer beaucoup d'emplois avec aussi peu de croissance, quoi.
Certains,
En tout cas, c'était une vraie surprise, je crois, pour l'INSEE qui prévoyait plus 59 000 postes. Bon, finalement, c'est plus 89 000. Donc, ça continue d'être une énigme chaque trimestre, quand même, en partie pour les économistes.
Surtout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est en général, quand on est face à des tensions et des difficultés de recrutement, ce que cherchent à faire les entreprises, c'est à être plus productives en général. Quand vous avez du mal à recruter, vous jouez sur les capacités que vous avez en interne, notamment en réorganisant, en jouant sur un certain nombre d'éléments qui font que vous allez plutôt pousser à la hausse la productivité, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les entreprises disent qu'elles ont eu des difficultés de recrutement comme jamais, et en même temps, elles n'ont jamais créé autant d'emplois. Donc on voit que c'est pas un frein finalement aux créations d'emplois aujourd'hui, ces difficultés de recrutement. On pourrait imaginer que ça allait accélérer la productivité plutôt que continuer à créer.
Ça dépend peut-être un peu des secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où c'est plus facile de faire des investissements de productivité que d'autres, quoi. L'hôtellerie-restauration, c'est peut-être.
Et vous pouvez jouer sur les heures supplémentaires. Enfin, il y a aussi d'autres éléments à plus court terme, mais c'est vrai que c'est assez surprenant.
Nathalie Janson, qui participe à cette émission régulièrement, vous le savez, m'écrit souvent d'ailleurs sur Twitter. Elle écrit : la baisse de la productivité est une illustration aussi de la zombification de l'économie, puisque on a maintenu, vous le savez, des entreprises qui, dans un monde normal, sans subvention, auraient très probablement disparu.
Mais les faillites recommencent quand même. Hein, donc
Elles sont revenues au niveau à peu près de 2019. Hein, quand on sort, on va sortir de tous ces dispositifs d'aide, notamment avec le niveau des aides d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs, ce problème de productivité va apparaître quand même comme quelque chose de problématique.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va évoquer cette convocation du président de la République qui a convoqué les 50 sites industriels considérés comme les plus polluants pour annoncer un accompagnement public à hauteur de 5 milliards d'euros auquel pourrait s'ajouter 5 milliards d'euros. Mais il y a un côté donnant-donnant. Et alors j'ai posé la question dans ces termes-là. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de faire de l'industrie une sorte de bouc émissaire du réchauffement climatique, finalement, en liant de la subvention et des programmes d'accompagnement à des engagements de décarbonation. A tout de suite, et puis ça ira évidemment avec l'histoire de Bruno Le Maire qui est parti en croisade contre ce sursaut protectionniste insufflé par Joe Biden aux États-Unis.